Voilà, donc on va traiter le sujet transhumanisme ou divinisation. Alors, on peut se poser la question, je peux vous poser cette question. Qui parmi vous voudrait être plus intelligent? Assez, hein? Ouais, moi aussi. Plus intelligent, avoir une meilleure mémoire. Alors moi, oui, je veux bien parce que il y a une défaillance. Apprendre plus vite, par exemple, connaître des langues étrangères sans les avoir apprises. Trop cool quand même, hein? Pour les touristes, c'est bien. Avoir une meilleure aussi vision, une meilleure audition. Ça peut être pas mal, hein? Et qui voudrait être plus vertueux et plus sain? Voilà, donc c'est étonnant parce que en fait, on voudrait tous être un peu plus que ce qu'on est, hein. Mais c'est normal. C'est normal parce que l'homme a une caractéristique, c'est qu'il est perfectible. L'animal, quand il naît, il est déjà quasiment tout fait. Alors que l'homme, il faut du temps pour faire un homme. Et les mamans, elles le savent, hein. Pour éduquer un enfant, ne serait-ce que pour la propreté, au niveau du corps. Ensuite, c'est un être raisonnable, donc au niveau de la culture, de l'intelligence, de l'apprentissage. Mais il n'est pas seulement un être de raison, il est aussi un fils de Dieu. Donc au niveau de la grâce, apprendre à grandir aussi en sainteté. Tout ça, c'est un chemin de croissance. Nous sommes appelés à ce chemin de croissance et c'est normal. Et on voit ce chemin de croissance, on le voit bien dans Jésus, dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, quand il redescend à Nazareth avec ses parents, après avoir fêté sa bar mitzvah, il croissait en sagesse, en taille et en grâce. Eh bien oui, les trois dimensions. Le corps, la taille, la sagesse, c'est-à-dire l'intelligence, la raison, et puis l'esprit, donc la vie de la grâce. Voilà, Jésus, vrai Dieu, mais vrai homme aussi, donc il est passé sur ce chemin de croissance. Donc l'homme est un être perfectible, il est sorti nu du ventre de sa mère, il est pourtant doté d'une âme spirituelle qui fait de lui un fils de Dieu appelé à devenir par la grâce participant de la nature divine. Comme nous le dit Saint Pierre dans sa deuxième lettre, dans le premier chapitre, participant de la nature divine. Voyez l'immensité du projet de Dieu concernant l'homme. Participant de la nature divine, de la vie divine, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu. Cette invitation à devenir de plus en plus un être humain pleinement réalisé, de plus en plus à la ressemblance de Dieu, fils de Dieu, eh bien elle est inscrite en nous. C'est là le projet d'amour de Dieu pour nous. Il nous attire sur ce chemin et il nous donne aussi les moyens de cela. Il nous a donné des talents et c'est aussi à nous de correspondre à la grâce et de déployer tous les talents qu'il nous a donnés. Il suscite en nous ce désir de sanctification et de divinisation. Voilà, c'était Pascal qui disait ça, « L'homme passe infiniment l'homme ». C'est très beau de dire ça, c'est voilà, il y a une destinée de dépassement. Mais on peut se poser la question, qu'advient-il si comme aujourd'hui, dans la perspective athée de notre monde, l'homme rejette Dieu? Qu'advient-il si son désir de croissance ne s'oriente plus vers l'union avec Dieu et vers la divinisation aussi, par grâce qui en découle? Qu'advient-il s'il ne reconnaît plus la dimension spirituelle de sa vie? Est-ce qu'il va renoncer à sa perfectibilité? Est-ce qu'il va renoncer à ce désir de dépassement de lui-même? Eh bien non, seulement il va dévier. Et c'est toute la définition du péché. Le péché, c'est dévier du but, de ce pourquoi nous sommes faits. Et donc, ce désir de perfectibilité, il va dévier. L'homme va vouloir prendre le chemin de l'auto-réalisation de soi par soi-même, sans rien devoir à Dieu, sans se recevoir de Dieu. Il va toujours vouloir la divinisation, mais Dieu c'est lui maintenant, vous voyez? Il va vouloir devenir Dieu, mais sans la grâce, seulement par ses propres moyens. Il va vouloir s'augmenter lui aussi. Mais sans la grâce, comment faire? Avec quels moyens? Eh bien, ça va être justement avec les moyens technologiques. Ça va être avec les, ce qu'on appelle les NBIC, on dit ça. Les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, c'est-à-dire la science et la manipulation de matériaux à des échelles atomiques. C'est moléculaire, vous voyez, c'est l'infiniment petit qu'on retrouve dans la médecine notamment. C'est NB, donc la biotechnologie. La biotechnologie, c'est la science et la manipulation de tout ce qui touche à l'ADN, à l'hybridation, au génome. Et ensuite, il va y avoir l'informatique. L'informatique, c'est-à-dire tout ce qui renvoie aux bases de données. Toutes ces données qui circulent dans le monde, hein, on a entendu parler du big data, n'est-ce pas? Et enfin, nous avons les sciences cognitives. Et les sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Voilà. On en parle de plus en plus, l'IA, voilà, exactement, dont le but, c'est d'arriver, en fait, à faire des machines intelligentes. Mais c'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Une machine ne saurait devenir intelligente, c'est évident. Mais c'est un abus de langage, et on voit déjà l'aspect de séduction. Nous faire croire qu'une machine va devenir intelligente. L'homme a donc de plus en plus de techniques à sa disposition pour s'augmenter par ses propres moyens et se prendre pour un dieu. Mais cet homme sans dieu et sans loi morale, fondée dans l'ordre naturel, hein, il est évident qu'il ne sera plus attiré maintenant prioritairement par une perfection morale, par une perfection spirituelle de lui-même, comme dans le premier cas, vous voyez ? Et il va chercher une perfection de puissance maintenant, grâce à toutes ces technologies. Et ça, c'est justement le projet du transhumanisme. Une augmentation par la technologie et non plus par la grâce. Et non plus en vue de la sainteté, mais en vue de la puissance. Donc nous nous trouvons devant cette alternative quant à la vocation de l'homme. Transhumanisme ou divinisation. Dieu veut nous agrandir par le don de son Saint-Esprit. Mais le monde, lui, nous propose une augmentation technologique, une parodie, voyez ? L'homme passe l'homme, mais dans quelle direction, voyez ? Et avec quels moyens ? Est-ce que ce sont les moyens de Dieu ou est-ce que ce sont les moyens de l'homme ? Si on est dans une perspective transhumaniste, alors le nec plus ultra, ça sera quoi ? Ben, ça sera de devenir une sorte de cyborg, voilà, mi-homme, mi-machine. Couplé au PC, vous voyez, à l'ordinateur. Toujours réparable, évidemment. Toujours réparable, avec des super-pouvoirs, une sorte d'omniscience, et puis d'immortalité. Voilà, ne jamais mourir. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours réparable. Ça, c'est la fabrique de l'homme augmenté. Et le nombre de... Alors moi, je vais rarement au cinéma, mais quand même, on voit les affiches, le nombre de films qui sont sur ces thématiques-là. De l'homme couplé à la machine, de machines qui deviennent intelligentes, c'est légion. Hein. Si on est dans une perspective chrétienne, alors le nec plus ultra, ce ne sera pas de devenir un cyborg, mais un saint, de la sainteté même de Dieu. C'est très différent quand même comme perspective. C'est-à-dire un homme qui se reçoit de Dieu, sans nier sa nature propre, sans vouloir la dépasser par des technologies. Mais c'est une augmentation quand même, mais par la grâce, jusqu'à pouvoir dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et le Christ, il est vrai homme et vrai Dieu. C'est le Christ qui vit en moi. Et dans cette perspective-là, bah, la mort, c'est pas quelque chose absolument à éviter, comme les transhumanistes veulent l'éviter, puisque c'est notre passage dans la pleine communion avec Dieu. Donc c'est pas dramatique, c'est la Pâque éternelle. Donc on voit bien là qu'on a quelque part deux projets de société, mais qui sont complètement opposés. Soit nous sommes dans une... En fait, c'est deux visions de l'homme. L'une qui est matérialiste et l'autre qui est ouverte à la transcendance, à l'Esprit Saint, à Dieu. Donc devant nous s'ouvrent deux chemins selon la vision que l'on a de l'homme. Et donc il s'agit évidemment de bien choisir le bon chemin. Et Jésus nous rappelle dans l'évangile de Matthieu cette double voie. Entrez par la porte étroite, nous dit-il. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Donc on a bien là deux chemins. L'un conduit à la vie, à la Jérusalem céleste, à la communion avec Dieu, et l'autre conduit à la perdition et à la mort, sous des dehors séducteurs. Donc l'enjeu, c'est ne pas se tromper de chemin. Et le chemin, ben, nous savons lequel nous voulons choisir. Jésus seul a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Autrement dit, si nous voulons le chemin de la vie, pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Mais l'ennemi, lui, nous propose aussi son chemin. Et avec tant de séduction que si nous ne sommes pas vigilants, eh ben, nous risquons de nous laisser aussi fasciner et entraîner sur ce chemin de perdition. On peut se laisser fasciner par les prodiges que nous proposent toutes ces biotechnologies, technologies, IA, etc. Pourquoi ? Parce que c'est toujours sous couvert de quelque chose de bon, d'une facilité de vie, d'un confort de vie. Le fait d'avoir une intelligence supérieure, on a dit tout à l'heure, on veut tous avoir une intelligence supérieure. Mais attention, pas par n'importe quel moyen, vous voyez ? Mais on peut nous proposer des moyens, justement, j'ai pris exprès tout à l'heure, savoir parler des langues étrangères sans les avoir apprises. Bon, certains visent cela avec une puce qu'on mettrait dans la tête et qui nous donnerait la possibilité de parler des langues étrangères sans les avoir apprises. Ah ben, c'est séducteur, évidemment, hein. Si vous allez, en Indonésie ou ailleurs, ça peut être utile. Ben oui, mais c'est utile, mais est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est conforme à ce qu'est l'homme ? Voilà, j'ai vu aussi démarrer sa voiture Tesla avec une puce dans le doigt. Oui, moi j'ai mes clés, ça va très bien. Hein. Voilà, mais certains voulaient faire aussi greffer le cerveau dans une machine pour éviter la mort. Voilà, c'est des projets qui existent. Il y avait un chirurgien qui était à fond là-dedans. Bon, voilà. Mais vous savez, quand on parle de gestation dans des utérus artificiels, c'est la même logique, hein ? On avance, on avance dans la même logique. Voilà, et il ne faut pas oublier que Satan est appelé le séducteur. Il ne vient pas avec des cornes et une queue. Ça serait trop facile, on le repérerait, quoi. Voilà. Non, c'est Lucifer, c'est l'ange de lumière. Il avance avec des choses qui nous séduisent. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il est menteur et puis qu'il est homicide. Voilà. Donc, entrons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que le transhumanisme ? Alors, humanitas, derrière, donc, étymologiquement, ça vient de humanité, et le préfixe trans, c'est-à-dire, ça renvoie à un processus. C'est le fait d'aller vers, de traverser, de dépasser. Il s'agit donc de dépasser l'humanité, de s'extirper de la condition humaine, d'aller au-delà de la condition humaine, dans une visée de progrès. En fait, c'est comme la continuité de la thèse de Darwin, vous voyez ? Il y a eu l'animal, ensuite il y a l'homme, et puis maintenant on va rentrer dans le post-humain. Voilà, le nec plus ultra, le post-humain. Où l'homme pourrait améliorer grandement ses performances par, je cite un Franck Damour là, qui a écrit sur le transhumanisme, par un ensemble de procédures, méthodes ou moyens, chimiques ou technologiques, dont le but est de dépasser les capacités de perception, de cognition, de réflexion et les capacités physiques, naturelles ou habituelles d'un sujet. Mais vous comprenez bien que faire la promotion de cette augmentation de l'homme, ça sous-tend quoi ? Ça sous-tend que l'homme est un être déficient, qu'il a été finalement, qu'il est plein d'insuffisance, qu'il est obsolète, qu'il est dépassé, et que finalement, en fait, Dieu, il a mal fait son boulot, quoi. Dieu est donc dépassé aussi. Il a mal fait son boulot. Voilà, et il conviendrait de remédier à ces insuffisances de l'homme en le mariant avec la technologie. Et pour séduire les gens, le démon séducteur, n'est-ce pas, il veut montrer aussi le bon côté du transhumanisme. Et beaucoup ont mis en avant ce qu'on appelle la médecine de réparation. Très bien, la médecine de réparation, c'est quoi ? C'est par exemple pouvoir redonner la possibilité à quelqu'un qui aurait perdu ses jambes de pouvoir à nouveau marcher avec des prothèses très élaborées, électroniques, etc. C'est pouvoir permettre à un aveugle de voir, à un sourd d'entendre. Vous savez, il y a l'entreprise de Elon Musk, là, avec Neuralink, de mettre des implants dans la tête pour permettre aux gens de voir ou d'entendre. Voilà. Mais voyez là, dans ce cas-là, c'est on supplée à une défaillance naturelle par un moyen technologique. Ben, c'est comme mes lunettes, hein. Je vois pas bien, j'ai des lunettes, moyens technologiques, bon, basiques, hein, mais qui me permettent de voir. C'est, on supplée à une défaillance naturelle par un moyen technologique. Seulement, dans cette médecine de réparation, on est en train de passer à une médecine d'augmentation. Et c'est là que ça devient problématique. Une médecine d'augmentation, c'est une médecine prédictive, améliorative, qui, au sens strict, n'est plus une médecine. Pourquoi ? Parce que la médecine est la mission de soigner l'homme tel qu'il est, selon sa nature, de prendre soin de lui tel qu'il est, tel que la nature l'a fait, non pas pour l'augmenter en changeant sa nature. Et donc là, on glisse, on dévie aussi. Voilà, le projet transhumaniste vise à changer la nature de l'homme, à repousser les limites de sa nature pour en faire un homme, voilà, mi-homme, mi-machine, quoi. Et la technique qui n'était jusqu'alors qu'un moyen pour aider l'homme dans ses tâches devient finalement une fin en soi à ce moment-là. Alors, comprenez-moi bien, hein, dans ce que je vous dis, je ne suis pas contre la technique, évidemment. Je ne suis pas contre les biotechnologies, je ne suis pas contre les ordinateurs, etc. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est l'idéologie du transhumanisme. C'est pas la technique en elle-même. La technique, elle peut être très bonne. D'ailleurs, je suis très contente que les machines à laver le linge existent. Merci Seigneur. Voilà, donc y a des très bonnes choses. L'invention de la roue, l'invention de mes lunettes aussi, merci Seigneur. Autrement, je ne vous verrais pas, là, il y aurait un nuage devant moi. Donc, c'est une bonne chose. Mais voilà, les transhumanismes, c'est autre chose derrière les transhumanismes. C'est une technologie qui se prend pour une fin en soi, où il faut augmenter l'homme et non pas seulement l'aider. Alors, on pousserait penser que cette idée du transhumanisme, elle est récente. Et de fait, moi, il me semble quand j'étais jeune, on ne parlait pas spécialement du transhumanisme. Il y avait bien des films de science-fiction, il y avait des choses comme ça, mais ce n'était pas du réel à ce moment-là. C'était une idée, quoi. C'était, ouais, c'était de la science-fiction, exactement. Voilà. Mais en fait, les racines philosophiques de cette utopie transhumanisme, elles sont anciennes. Alors, je ne vais pas pouvoir les développer là, parce que on n'a qu'une heure. Si vous voulez les avoir, j'ai travaillé ça et j'ai mis ça sur un site où vous pouvez retrouver ça, www.témoindelalumière.fr. Là-dessus, vous retrouverez le déploiement de ce que j'ai pas le temps de dire ici. Là, je dis juste quelques petites choses. On voit en fait que dans les mouvements philosophiques qui ont préparé la voie du transhumanisme, il y a des constantes. Et les constantes, c'est l'athéisme. Premièrement, derrière, le soubassement philosophique, c'est l'athéisme. Et ça, c'est la signature du démon qui se dresse contre Dieu. Le soubassement, c'est aussi une vision matérialiste du monde, et notamment de l'homme. L'homme n'est que matière. La pensée est le fruit de la matière, des neurones. Alors, du temps de Descartes, ça pouvait être Malebranche, tout ça, ça pouvait être une mécanique. Ensuite, il y a eu l'homme neuronal de Changeux. Voilà. Mais c'est une vision matérialiste. Et il y a aussi la revendication d'un idéal d'indépendance. Indépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, rejet de Dieu, rejet de la transcendance, rejet de toute sagesse qui vient de lui. Il y a le rejet de la nature, le rejet de l'idée de nature humaine notamment, qui serait donnée par Dieu. Bon, ça, c'est mis à la poubelle. L'homme, il est construit. L'homme se construit, l'homme est libre de se faire lui-même. Derrière, vous reconnaissez Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, hein. On ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire, l'homme se construit lui-même. Donc ça, c'est derrière aussi en soubassement philosophique du transhumanisme. Et puis, il y a évidemment le rejet de la morale, de la loi naturelle, et donc l'exaltation du plus fort, du surhomme, avec, on peut retrouver aussi Nietzsche derrière, « Dieu est mort, vive le surhomme !» Eh ben voilà, ça prépare ça aussi. Avec aussi la notion, il faut bien voir que la philosophie de Nietzsche, elle a été récupérée par les nazis, et dans leur projet eugéniste. Projet eugéniste, c'est-à-dire la sélection, le tri des êtres humains pour garder les plus performants. Voilà, l'idéologie du surhomme, ça va aussi avec la destruction du sous-homme, je dirais, hein, des inutiles. Donc ça, tout ça, ça prépare d'une certaine façon l'idéologie transhumaniste. Mais je vais m'attarder beaucoup plus sur les racines spirituelles de ce mouvement du transhumanisme. Donc, je vous ai dit que ça remontait à l'aube de l'humanité, on pourrait dire, et ça remonte, en fait, ça remonte au péché originel, tout simplement, cette tentation. Et ça remonte même avant, ça remonte à la rébellion des anges, et notamment de Lucifer. Lucifer, quel est le péché des anges? Le péché des anges, c'est, il faut bien voir qu'ils avaient été créés bons et libres, et le premier d'entre eux, Lucifer, le porteur de lumière, le plus bel ange, n'est-ce pas, a librement, radicalement et irrévocablement choisi de refuser Dieu et son règne. Il a refusé l'adoration qui était due à Dieu. Il a refusé d'ordonner sa vie à Dieu, de dépendre de lui pour son bonheur. Au lieu de recevoir humblement dans l'action de grâce la gloire de Dieu comme un don qui lui était fait, il a voulu s'en emparer pour la réalisation de lui-même, pour sa propre gloriole. Il s'est préféré à Dieu. Ça, c'est le péché d'orgueil par excellence, un amour désordonné de soi-même. Il s'est voulu plus grand qu'il n'était. Vous voyez, et lui aussi, il a voulu s'augmenter. Il a voulu s'augmenter lui-même sans se recevoir de Dieu. Et c'était déjà une transgression. Il a voulu être comme Dieu. Et une fois que les anges déchus, devenus des démons, ont été jetés hors du ciel, eh bien, ils ont eu le pouvoir de tenter les hommes, car ils voulaient les associer à leur révolte contre Dieu. Ils voulaient les entraîner dans leur propre chute aussi. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le serpent trompeur. Le serpent trompeur, il vient suggérer à Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, seul arbre défendu par Dieu. Et comme Ève lui répondait que celui-ci, il ne fallait pas en manger, sinon il mourrait, le serpent séducteur, aimanteur et homicide lui dit: Mais pas du tout, vous ne mourrez pas! Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, ou comme Dieu, ça dépend des traductions, voilà, qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir. Vous voyez l'aspect de séduction du démon. Qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement, elle prit de son fruit et en mangea. Donc, il y aurait plein de choses à dire sur ce petit passage, mais juste pour mettre le point sur la tactique séductrice du démon. D'abord, il flatte l'orgueil. Ça, c'est intéressant pour nous aussi, pour le discernement spirituel. Il flatte l'orgueil. Vous serez comme des dieux. N'est-ce pas ce que les transhumanistes nous font miroiter aujourd'hui? Vous serez super intelligent, super fort, des yeux bio-ioniques, etc. Enfin, vous voyez? Ce surcroît. Il excite sa curiosité aussi. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez dans une omniscience, ce qui est une prérogative divine. Mais les transhumanistes visent à ça, une omniscience, tout savoir, par les données, en fait, la puissance des ordinateurs, tout savoir. En fait, ce que Satan a distillé par ses paroles dans le cœur d'Ève, c'est le doute sur l'amour de Dieu. Dieu dit qu'il vous aime, mais en fait, il ne vous aime peut-être pas tant que cela, puisqu'il vous cache des choses pour que vous ne deveniez pas des dieux par vous. Vous voyez? Ça, c'est la tentation dont on ne s'est pas remis et qui traîne encore dans nos arrière-pensées. Alors qu'en fait, le Seigneur, il voulait nous donner la divinisation, mais dans un lien d'amour avec lui. En nous recevant de lui. On ne peut pas recevoir la vie divine d'une machine. C'est pas possible. On ne la reçoit que de Dieu. Mais au temps de Dieu, à la manière de Dieu. Et le catéchisme de l'Église catholique précise, et je trouve que c'est en très peu de phrases, on a tout, l'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et, abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu et par là même il a méprisé Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Mais par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et non pas selon Dieu. Là, tout est dit, hein. L'homme se préfère à Dieu, il veut dépasser sa nature humaine. Et vous voyez à quel point s'est reproduit en l'homme, quelque part, le péché des anges. C'est le même péché. Et comme tout cela ressemble aussi à la tentation transhumaniste d'aujourd'hui qui vise à dépasser la condition humaine et même à s'affranchir de la mort par les technologies. Et c'est le désir de devenir comme Dieu, omniscient, omnipotent, immortel, créateur de soi-même. Voilà. En fait, il s'agit toujours de mettre la main sur, vous voyez, ça c'est une tentation aussi terrible, même dans nos relations humaines, mettre la main sur l'autre, mettre la main sur le bien, au lieu de savoir le recevoir comme un don dans la gratitude. On a à se convertir aussi nous-mêmes là-dedans. Voilà. Et puis surtout, c'est ne plus croire que Dieu nous aime si on rentre dans cette tentation, vous voyez ? C'est le percevoir non pas comme un père qui nous élève vers lui, qui nous éduque, mais comme une sorte de tyran despote jaloux de ses prérogatives qui veut maintenir les hommes en esclavage. En fait, la ruse de Satan, qui a si bien marché et qui continue à marcher, c'est d'arriver à projeter sur Dieu, dans le cœur des hommes, ce qu'il est lui-même, Satan. Car Satan, c'est lui, en fait, le véritable despote tyrannique qui est en train de couper l'homme de la source divinisatrice, Dieu, pour l'emmener dans sa propre chute et le maintenir en esclavage, sous sa coupe, voyez, dans une condition humaine qui est avortée, finalement. Si on va pas vers la plénitude de cette divinisation, ça veut dire que notre condition humaine, elle reste avortée. Alors, il me semble qu'il est important aussi de souligner les fruits de ce péché sur la génération suivante, après Adam et Ève. Eh bien, c'est quoi ? C'est le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Vous voyez, on commence par douter de Dieu, de la sagesse de ses commandements, de son amour qui les fonde, puis on en vient à des pensées d'orgueil, à une curiosité qui met le savoir au-dessus de Dieu, la gnose aussi, hein. On en vient à la désobéissance, puis finalement, on enfante à la génération suivante. Après avoir tué Dieu dans son cœur, on enfante le meurtre du frère. C'est une cascade de conséquences logiques. Et ce meurtre du frère, vous voyez, il n'est pas affiché comme tel dans l'idéologie transhumaniste. N'empêche qu'il est là, en filigrane. Tout d'abord parce qu'on se rend compte que ce sont très souvent, quand on fait des recherches, ce sont très souvent des eugénistes qui financent les projets transhumanistes. Ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est le cas. C'est-à-dire, c'est ceux qui pensent qu'il y a trop d'êtres humains sur la Terre et qu'il faudrait faire disparaître les inutiles. C'est ceux-ci qui financent les projets transhumanistes en général. Et les transhumanistes, il faut bien voir qu'ils ne cachent pas que nous sommes au seuil de l'avènement de deux catégories d'hommes. Les augmentés immortels, nouveaux maîtres du monde, et les esclaves simples mortels, c'est-à-dire les non-augmentés, et donc moins performants, ceux qui vont rester pour les tâches subalternes, vous voyez, après que les inutiles ont été éliminés. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas une invention de moi, hein, c'est le docteur Laurent Alexandre qui en a parlé, c'est Yuval Harari qui est une sorte de le prophète du transhumanisme qui en a parlé aussi. Donc, on voit bien que le meurtre du frère Abel par Caïn, à la génération suivante, on peut se dire, ben, nous, on est dans le transhumanisme en ce moment, alors peut-être que l'eugénisme, ça ne sera pas pour cette génération-là, mais peut-être à la génération suivante. Et on s'y prépare bien d'ailleurs avec l'euthanasie. Et cette racine d'orgueil dans le cœur de l'homme, on la retrouve, alors je vais peut-être pas développer ça parce que ça va être un peu trop long, mais on la retrouve aussi dans le péché de la tour de Babel. C'est la même chose qui est en jeu. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Ben, leur péché, c'est quoi ? Il est double. Ils veulent monter jusqu'au ciel par leur propre force, leurs propres efforts. Voilà. Et deuxièmement, leur péché consiste à vouloir unifier tous les hommes, mais au profit de leur propre gloire. Ils sont pas là dans « glorifions le nom de Dieu », mais ils sont là dans « faisons-nous un nom à nous ». Voilà, glorification de soi-même, comme Lucifer. Et Saint Cyril d'Alexandrie disait « Dieu ne peut laisser sans punition les entreprises qui dépassent la nature humaine ». c'est intéressant, qui dépasse la nature humaine, transhumanisme, qui dépasse la nature humaine, et tendent vers des buts démesurés. Voyez, hein, l'orgueil nous mène toujours vers des buts démesurés. L'hubris grec. Donc, en fait, ce que nous voyons, c'est que tout au long, finalement, de l'histoire humaine, quand on relit la Bible, il y a d'autres épisodes, il y a comme un partage entre deux lignées, on pourrait dire. Il y a ceux qui, comme Saint Michel Archange, s'écrient « Qui est comme Dieu ?» Et de fait, personne n'est comme Dieu. Dieu seul est Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Et puis, il y a les autres qui écoutent la susurration du démon qui leur dit « Vous serez comme des dieux ». Voyez le « qui est comme Dieu ?»« Vous serez comme des dieux. » Dieu seul est Dieu. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Christ a annoncé qu'il y aurait à la fin des temps un grand combat spirituel et la venue d'un antéchrist ou antichrist, ça dépend les traductions. Cet antéchrist, il est le fils spirituel de Satan. Et on nous dit « il produira de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus ». Ça, c'était dans Matthieu 24-24. Donc, ça nous dit aussi son pouvoir de séduction, là. Hein. Or, cet être qui se dressera contre Dieu, mais d'une manière extrêmement subtile et séductrice, en se faisant d'abord passer pour un agneau alors qu'il ne sera qu'un loup déguisé en agneau, comme Lucifer se présente comme un ange de lumière, hein, pour mieux tromper son monde, eh bien, cet être de perdition, nous avons déjà des préfigurations, on pourrait dire, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des préfigurations de Jésus, Élie, Moïse, etc. Mais il y a aussi des préfigurations de l'Antéchrist. Et c'est intéressant de les regarder parce que ça nous donne leur profil psychologique, on pourrait dire, et spirituel. Et ça nous éclaire aussi sur la tentation transhumaniste qui émerge de plus en plus. Alors, une des figures, c'est la figure d'Antiochus Épiphane, dans le premier livre des Maccabées. Vous pourrez relire ça, c'est assez incroyable. C'est un roi impie, dont le père avait soumis une grande quantité de nations et dont on nous dit que, donc le père, son cœur s'exalta et s'enfla d'orgueil. Et le fils, même filiation spirituelle, on nous dit, il entre dans le sanctuaire de Dieu avec arrogance. Il pille le temple de Jérusalem, il le profane, il trompe les juifs par des discours faussement pacifiques, là encore, menteur, séducteur. Sous couvert de paix sociale et d'unification des peuples, il force les Juifs à abandonner l'alliance avec Dieu. Et il met en place une religion unique, religion idolâtre. Et tous ceux qui lui désobéissent sont mis à mort. Bon, homicide, voilà. Et enfin, il construit l'abomination de la désolation, c'est-à-dire une idole, sur l'autel des holocaustes dans le temple de Jérusalem. Et le prophète Daniel évoque ce tyran en disant « Le roi agira selon son bon plaisir ». S'enorgueillissant et s'exaltant par-dessus tous les dieux, contre le Dieu des dieux. Il dira des choses étonnantes. Il prospérera jusqu'à ce que soit comble la colère de Dieu. Sans égard pour les dieux de ses pères, c'est lui-même qu'il exaltera au-dessus de tout. À leur place, il vénérera le dieu des forteresses, il vénérera un dieu que ses pères n'ont pas connu. Donc voilà un tyran qui s'exalte au-dessus de tout, qui s'avance comme un nouveau prophète et qui vénère le dieu des forteresses, autrement dit la force à l'état pur, la guerre, la cruauté, un surhomme quelque part, à la Nietzsche, vous voyez. Ce tyran est en droit de filiation spirituelle avec Lucifer, son père dans la révolte et dans la cruauté, dont il partage les traits psychologiques. Et on nous dit... Dans Isaïe 14, on peut ramener à ce qu'il est. « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ? As-tu été rejeté à terre, vainqueur des nations, toi qui avais dit dans ton cœur, « J'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je m'égalerai au très haut. » Mais tu as été précipité au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme. » Voyez, triste sort pour celui qui voulait escalader les cieux, comme les transhumanistes prétendent le faire aujourd'hui. Mais ils auront la même chute, je pense. Alors, regardons dans le Nouveau Testament maintenant, on nous dit que ce personnage, l'Antéchrist, rempli d'orgueil, Saint Paul nous en parle dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et il nous dit, auparavant, donc avant la venue du Seigneur en gloire, hein, auparavant doit venir l'apostasie, L'apostasie, ça veut dire la perte de la foi dans le peuple de Dieu. Et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Voyez, on a vraiment la même filiation du début jusqu'à la fin, quoi. Une même race, je dirais, entre guillemets, spirituelle. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, nous avons aussi la description de cet antichrist qui, sous les traits d'une bête, et alors c'est intéressant, on se dit, on se prosterna devant le dragon, c'est-à-dire Satan, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, c'est-à-dire son fils spirituel, en disant « Qui égale la bête ?» Et qui peut lutter contre elle? Mais voyez là, nous avons une parodie de la parole de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, il disait « Qui est comme Dieu ?» Et là, on a « Qui est comme la bête ?» Voyez, la bête prend la place de Dieu. Elle s'exalte à la place de Dieu. Une parodie séductrice. Voilà, la bête, eh bien... on dit à cette bête, on lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna de mener campagne contre les saints, c'est-à-dire le peuple fidèle à Dieu, et de les vaincre. On lui donna aussi pouvoir sur toute race, langue ou nation. Pouvoir de séduction, là aussi, hein. Et ils l'adoreront tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Donc nous avons là le risque de tout un peuple qui tombe dans l'idolâtrie de la bête. Cette bête qui se prend pour Dieu, qui fascine. Ensuite, il nous est parlé d'une deuxième bête qui surgit de la terre et qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc là aussi, on voit la mystification. Une apparence bonne, mais qui cache la méchanceté, comme Lucifer. Voilà, Satan déguisé en ange de lumière pour tromper les hommes. Et on nous dit que cette seconde bête, elle produit de grands signes. Jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire en présence de la bête. Et vous remarquerez que Jésus nous avait mis en garde, hein, en nous disant que viendraient des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Eh bien, nous sommes là dans un processus de séduction, une tromperie gigantesque propre à fasciner les hommes. Or, c'est une interprétation que je vous donne, hein, c'est pas. Mais on peut se dire que la technologie, elle est aussi faiseuse de miracles, de prodiges, propres à fasciner les gens. Quand on voit les hologrammes, par exemple, vous savez, les personnes en trois dimensions qui peuvent arriver dans une salle comme si la personne était réellement là, alors qu'elle n'est pas là. Prodige de la technologie, faire apparaître ce qui n'est pas. On a la fabrication de robots. J'ai été frappée quand même sur une vidéo sur Internet où ils montraient un robot, entre guillemets, humanoïde, mais avec une peau synthétique, etc. Mais et ils disaient, quel est des deux, il y avait une personne réelle et un robot, quel est le robot? Ben, j'étais incapable de le dire. J'étais incapable de le dire, tellement ça ressemblait, quoi. Je me dis, waouh, puissance de tromperie quand même assez incroyable, hein. Voilà, mais l'intelligence artificielle, entre guillemets, parce que ça n'existe pas, hein, c'est que des algorithmes derrière, mais on croit parler vraiment à un esprit, on peut être dans l'illusion de croire vraiment parler à quelqu'un d'intelligent, et pas du tout, on parle à des algorithmes. D'où la confusion que ça peut amener aussi, hein. Voilà, cette bête dit aux habitants de la Terre de dresser une image en l'honneur de la première bête. Cette image reçoit le pouvoir de faire tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. C'est étonnant, à chaque fois, la finale, c'est hop, homicide, le meurtre. Ça doit nous alerter aussi. Ça commence pas, évidemment, le démon, il n'arrive pas en disant « je vais vous tuer hein. ». Voilà, il nous séduit, il nous ment, mais ensuite son projet, c'est pas un projet de vie. Donc on voit bien à chaque fois, on a la bouffée d'orgueil qui se traduit par la révolte contre Dieu, un processus de séduction, un contrôle aussi accru de tous et la mise à mort des récalcitrants. Alors, pourquoi est-ce que je déploie tout ce panorama spirituel? C'est pour montrer qu'il y a vraiment une sorte d'antagonisme spirituel entre deux lignées. C'était Grignon de Montfort qui disait ça avec son langage du XVIIe siècle. Il y a la lignée des réprouvés et la lignée des prédestinés. Voilà, ceux qui veulent la lumière, ceux qui veulent les ténèbres. Et en fait, on pourrait dire qu'il y a deux religions qui s'affrontent. Ou plutôt, pour être dans la vérité, une religion et une idolâtrie. D'un côté, il y a la religion chrétienne d'un Dieu bon et juste, créateur du monde et de l'homme, d'un Dieu qui se fait homme, avec l'incarnation du Verbe fait chair, le Christ, pour que l'homme, par grâce divine, soit rendu participant de la nature divine. Voyez, que l'homme devienne Dieu par grâce, en union avec Dieu. Ça, c'est... notre religion. Mais d'un autre côté, nous avons une religion idolâtre. C'est pas Dieu qui se fait homme, c'est l'homme qui se fait Dieu. Vous voyez ? L'homme qui se fait Dieu, qui s'exalte lui-même, qui veut devenir le créateur de tout et de lui-même. Blasphémant Dieu, adorant la puissance, la science, et finissant par mettre à mort tous ceux qui résistent. Donc on a deux chemins, Dieu qui se fait homme en Jésus, l'homme qui se fait Dieu par les technologies. Vous voyez, il y a la grâce d'un côté, il y a l'esprit doux et humble du Christ d'un côté, l'esprit saint, et de l'autre côté, il y a l'esprit démoniaque, l'esprit orgueilleux, l'esprit d'exaltation de soi qui utilise la technologie. Alors, et quand je vous dis que c'est une religion, en fait, on peut parler effectivement d'une option spirituelle dans le transhumanisme, parce que il y a une aspiration à Dieu. Seulement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce Dieu, c'est nous-mêmes, c'est l'homme, c'est l'auto-divinisation de l'homme. Et je vous reparle de Yuval Harari, qu'on le voit, c'est le maître à penser. Je sais que Obama, il y avait des présidents des États-Unis qui l'avaient encensé en disant cet homme-là, il est extraordinaire, etc. Bon, voilà. Et il a écrit plusieurs livres, et le dernier livre qu'il a écrit, tout un programme, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Homo Deus, l'homme-dieu. Voilà, une brève histoire de l'avenir. Où il y est question de l'avènement d'un homme-dieu grâce à l'intelligence artificielle et toutes les biotechnologies. Et en fait, Yuval Harari, il y annonce la fin de l'homo sapiens. La fin de la religion au profit du dataïsme, il dit. C'est une philosophie émergente qui considère le monde comme un flux de données. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, les racines philosophiques, c'est le matérialisme. Voyez là, l'explication du monde, le dataïsme. On est dans un pur matérialisme. Donc selon le dataïsme, la collecte et le traitement des données, notamment par les moyens informatiques, vont permettre de comprendre le monde, le passé, l'avenir en tant qu'algorithme, selon lui. Et on peut supposer que dans l'avenir, le dataïsme deviendra une techno-religion et succédera alors à l'humanisme. Par les data, l'homme deviendra une sorte de sur-homme. Car dit Yuval Harari, les données personnelles collectées sur lui lui permettront de se connaître bien mieux qu'avec sa seule intelligence ou son ressenti. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les data qui choisiront pour l'homme ce qu'il va manger, ce qu'il va faire. Vous voyez ? L'homme va déléguer sa conscience, son intelligence à la machine. Terrible. En fait, c'est pas la machine qui devient intelligente, c'est l'homme qui devient machine, quoi, qui se réduit à un objet. Donc l'homme ne peut devenir un surhomme qu'en sacrifiant ce qui fait de lui un homme, paradoxalement. Ce qui fait de lui un être raisonnable, libre, responsable, appelé à la gloire de Dieu. Il abdique au profit de l'informatique, au profit des bases de données le concernant, au profit des nano et biotechnologies, sa capacité à choisir, à penser par lui-même et pour lui-même ce qui est le meilleur. Mais c'est redoutable, parce que si c'est la machine qui pense le meilleur pour nous, méfions-nous, quoi. Donc, il abdique son humanité, il vend son âme au diable, tout simplement. Alors, certes, il peut devenir un cyborg, un homme augmenté, couplé à la technologie, mais voilà, il déchoit de son humanité. Il perd ce qui fait sa grandeur. Et cela devient comme une nouvelle religion, une techno-religion. Et ça, c'est encore Yuval Harari qui dit ça. Et il dit, en fait, finalement, l'homme se sauve lui-même de la mort, de ses faiblesses. Il n'a plus besoin de Jésus comme sauveur. voyez? Mais vous percevez bien que cette nouvelle religion, ben, elle a pour père le séducteur, celui qui veut s'exalter au-dessus de Dieu. Donc c'est une religion proprement démoniaque, en fait, quand on va dans ce mouvement-là. Et alors, pour l'anecdote, mais j'ai trouvé ça dans un truc, je me suis dit, mais vraiment, mais la folie n'a pas de fin. Aux États-Unis, il y a un ex-cadre d'Uber, la société Uber, qui a créé une église dont le dieu est l'intelligence artificielle. Cette église voue un culte au dieu des technologies, et lui, donc cet homme, il se dit le prêtre, le prophète et le PDG de cette église. Alors, vous allez me dire, c'est délirant. Ben oui, c'est délirant. Mais en fait, ça a le mérite de révéler ce qui est sous-jacent, ce qui est sous-jacent à nombre de courants transhumanisme, qui ne l'affirment pas d'une manière aussi grotesque, je dirais, mais qui sont pourtant imprégnés de ce même paradigme. Voilà, alors, il n'est pas le seul à penser ainsi, quoi. Lui, il en tire les conséquences jusqu'à l'extrême, en fait. Voilà. Il met l'idole dans le temple, comme Antiochus Épiphane, comme tous ceux que je vous ai mis avant, on met l'idole dans le temple. Ben lui, il a mis l'idole dans le temple, l'IA. Il y avait en 2015, il y a Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, qui disait « Après le polythéisme et le monothéisme, émerge aujourd'hui le troisième âge de la religion, celui de l'homme-dieu. Doté de pouvoirs quasi infinis grâce au NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, il pourra réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir faire, créer la vie, modifier notre génome, reprogrammer notre cerveau et euthanasier la mort. Dans les années 2030, nous allons posséder un pouvoir proprement démiurgique grâce à l'hybridation de nos cerveaux avec des nanotechnologies. » Et le docteur Laurent Alexandre nous dit, en conséquence de tout ça, Dieu va être décrédibilisé et remplacé par l'homme cyborg. Faut quand même avoir un sacré aveuglement quand même pour croire à ça. Enfin, remarquez, ils ne croient pas en Dieu, hein, donc ça peut se comprendre. Ils ont mis l'idole à côté, mais voilà, ils se prennent pour Dieu. Dieu n'existe pas encore, dit-il. Il sera l'homme de demain, doté de pouvoirs quasi infinis grâce aux nanotechnologies et aux biotechnologies. Et dans son livre « La guerre des intelligences », il dit « L'évangile des transhumanistes ». Donc, je veux dire, c'est vraiment la signature pour montrer « Voilà, je vous propose la parodie du christianisme ». L'évangile des transhumanistes va se répandre comme une traînée de poudre, enchaînant les conversions avec plus de rapidité que l'évangile chrétien n'avait pu le faire au début de notre ère. La religion transhumaniste pourrait imposer sa loi en quelques décennies, ses apôtres étant déjà dans les faits les nouveaux maîtres du monde. Ils ont entre leurs mains les deux pouvoirs, celui de l'argent, grâce à leur immense réserve de cash, et celui de la donnée, le data, qui fonde le pouvoir politique, c'est-à-dire la puissance de contrôle. C'est bien dit, hein? Ça a le mérite d'être clair. Et vous voyez, quand Laurent Alexandre nous parlait d'évangile, moi, ça m'a frappé parce que j'entendais Yuval Harari aussi qui disait, voilà, il lançait ça comme une supposition, un ballon d'essai, si vous voulez. Il disait, on pourrait demander à l'IA d'écrire un texte, une nouvelle Bible pour les temps à venir. Et ça serait un texte religieux dans lequel tout le monde pourrait se retrouver, aussi bien les musulmans, les hindouistes, les chrétiens, etc. Alors, évidemment, ça serait un texte, vous imaginez bien, qui va nous parler de paix, d'amour, de respect des autres, de... Il est menteur, il est séducteur. Vous voyez? Mais pour amener une sorte de religion aussi mondiale, entrez tous, il n'y aura plus de guerre de religion, les hommes vont s'entendre, on demande à l'intelligence artificielle de faire ce texte. Il n'a pas encore été fait, mais n'empêche que ça traîne dans l'esprit de certains, quoi. Voilà. Ils y croient, ils l'espèrent. Voilà, donc c'est vraiment un projet, je dirais, digne de Lucifer, quoi. Voilà, le démon déguisé en ange de lumière. C'est la nouvelle religion qui vise à évincer le Christ. Mais bon, ça fait des années que Satan essaye d'évincer le Christ, il ne l'a toujours pas évincé, hein, vous avez remarqué. Exactement, on sait qui a la victoire, Dieu soit loué. qui est comme Dieu, Dieu seul. Voilà, alors, il faut bien comprendre en fait que Satan singe